Je passai le reste de la journée dans la plus cruelle incertitude. Je ne pouvais ni prendre aucun repos, ni m'occuper d'aucun soin. La solitude m'était affreuse et la compagnie importune. Dans ces dispositions, j'errais au hasard par les rues et les quais de la ville, contemplant tristement les armoiries mutilées au front des autels et les saints décapités au portail des églises. Ma rêverie me conduisit insensiblement dans le jardin du palais royal, où se pressait une foule bigarrée de promeneurs qui venaient lire les gazettes en buvant du café. Aussi les galeries de bois avaient-elles tous les jours un air de fête. Dans la déclaration de la guerre et le progrès des armées coalisées, les Parisiens venaient ainsi chercher des nouvelles aux Tuileries et au palais royal. La foule était grande quand le temps était beau, et l'inquiétude même apportait avec elle un certain divertissement. Beaucoup de femmes, vêtues à la grecque avec simplicité, portaient à la taille ou dans les cheveux les couleurs de la nation. Je me sentais plus seul encore dans cette foule. Tout ce bruit, tout ce mouvement qui m'environnait me servait pour ainsi dire qu'à repousser et à refermer mes pensées en moi. Hélas, me disais-je, ai-je assez parlé? Ai-je laissé voir tous mes sentiments, ou plutôt n'en ai-je que trop dit? Consentira-t-elle à me revoir encore maintenant qu'elle sait que je l'aime? Mais le sait-elle? Et le veut-elle savoir? Ainsi je gémissais sur l'incertitude de mon sort, quand mon attention fut brusquement attirée par une voix connue. Je levai la tête et je vis M. Mille, qui, debout dans un café, chantait au milieu des patriotes et de citoyennes. Vêtu en garde nationale, il pressait de son bras gauche une jeune femme que je reconnus pour l'une des bouquetières de Rampenau, et chantait sur l'air de Lisette « S'il est 1200 députés qui brisent nos entraves, le vœu de 100 000 beautés est de nous rendre esclaves. Toutes nos dames ont regret à l'ancien régime, et louer un nouveau décret, c'est perdre leur estime. » Un murmure d'approbation accueillit ce couplet. Monsieur Mille sourit, s'inclina légèrement, puis se tournant vers sa compagne, il continua de chanter. « Ah, ne les imitez jamais, adorable Sophie, et connaissez mieux les bienfaits de la philosophie. C'est elle qui dicte des lois aux colons salons de la France et qui fera dans tous ses droits rentrer un peuple immense. » On applaudit, et M. Mille, tirant de sa poche un nœud de ruban, le remit à Sophie en chantant « Hâtez-vous donc de l'arborer, cette belle cocarde dont je me tente à me parer quand je monte ma garde. Vous devez préférer alors les fleurs à peine écloses, ce joli ruban tricolore à tout l'éclat des roses. » Sophie piqua le ruban à son bonnet en promenant sur l'assistance un regard stupide et triomphant. On applaudit M. Mille. Il salua. Il contemplait la foule sans y distinguer ni moi ni personne. Ou plutôt dans cette foule, il ne voyait que lui-même. « Ah, monsieur !» s'écria mon voisin, qui dans son enthousiasme m'embrassait tendrement. « Ah, si les Prussiens, si les Autrichiens voyaient cela, ils trembleraient, monsieur !» Ils ont eu des intelligences à Longwy et à Verdun, mais Paris, s'ils y venaient, serait leur tombeau. L'esprit du peuple est tout à fait martial. Je viens du jardin des Tuileries, monsieur. J'ai entendu des chanteurs placés devant la statue de la Liberté entonner le chant de guerre des Marseillais. Et une foule frémissante répétait en chœur le refrain « Aux armes, citoyens !» Oh, que les Prussiens étaient-ils là? Mais ils furent tous rentrés sous terre. Mon interlocuteur était un homme ordinaire, ni beau ni laid, ni petit ni grand. Il ressemblait à tout le monde et n'avait rien de propre ni de distinctif. Mais comme il parla haut, il fut vite entouré. Et après avoir toussé avec importance, il poursuivit. « L'ennemi approche de Châlons. Il faut l'enfermer dans un cercle de fer. Citoyens, veillons nous-mêmes au salut public. Mais défiez-vous de vos généraux. Défiez-vous de l'état-major des troupes de ligne. Défiez-vous de vos ministres, bien que vous les ayez choisis. Défiez-vous même de vos députés à la Convention. Et sauvons-nous nous-mêmes. » « Bravo !» s'écria un des assistants. « Volons en Châlons !» Un petit homme l'interrompit vivement. « Les patriotes ne doivent quitter Paris qu'après avoir exterminé les traîtres !» Ces paroles sortaient d'une bouche que je reconnus aussitôt. Je ne pouvais pas m'y tromper. Cette tête énorme et chancelante sur d'étroites épaules, cette face plate et livide, toute cette personne chétive et monstrueuse, c'était mon ancien maître, le père Joussanvaux. Une méchante veste avait remplacé sa soutane. Sa tête était coiffée d'un bonnet rouge. Son visage suait la haine et l'apostasie. Je détournais le mien, mais je ne pus me défendre d'entendre l'ancien oratorien qui poursuivait sa harangue en ces termes. « On n'a pas assez versé de sang dans les glorieuses journées de septembre. Le peuple, toujours magnanime, a trop épargné les conspirateurs et les traîtres. » À ces terribles paroles, je m'en fus épouvanté. Enfant, je soupçonnais M. Joursanvaux de n'être ni juste ni bienveillant. Je ne l'aimais pas. Mais j'étais bien loin de deviner la noirceur de son âme. En découvrant que mon ancien maître n'était qu'un vil scélérat, j'éprouvais une douleur amère. « Ah, que ne suis-je encore qu'un enfant ? » m'écriai-je en moi-même. « Et à quoi bon vivre si la vie nous ménage de semblables rencontres ? Ô mon régent, père Féval, que votre souvenir vienne adoucir les tristesses de mon âme. Où la tourmente vous a-t-elle jeté, ô mon seul, mon vrai, seul maître? Du moins, partout où vous êtes, j'en suis sûr, l'humanité, la pitié et l'héroïsme résident avec vous. Vous m'avez enseigné, ô mon véritable régent, la droiture et le courage. Vous avez fortifié mon âme en prévision des jours d'épreuve. Puisse votre élève, votre enfant, ne pas se montrer trop indigne de vous. » À peine avais-je achevé cette invocation mentale que je me sentis un courage nouveau. Et ma pensée, revenant par une pente naturelle à ma chère Amélie, je connus tout à coup mon devoir et je résolus de l'accomplir. J'avais révélé mes sentiments à Amélie. Ne l'avais-je pas le même aveu à Madame Berthemet? J'étais à quelques pas de sa porte et mes rêveries m'avaient conduit naturellement vers la maison où respirait Amélie. J'entrais, je parlais. Madame Berthemet me répondit en souriant que j'étais un bien honnête homme. Puis, prenant un ton plus grave, « Je vais donc vous faire une confidence nécessaire à votre repos. Ne vous abusez pas, renoncez à tout espoir. Ma fille est aimée du chevalier de Saint-Ange, et je ne la crois pas insensible à cet hommage. Je souhaiterais pourtant qu'elle en perdît le souvenir, car notre fortune décline chaque jour, et l'amour du chevalier est mis par là à une épreuve dont les sentiments les plus ardents ne sont pas toujours victorieux. Le chevalier de Saint-Ange. À ce nom, je frémis. J'avais pour rival le poète le plus tendre, le conteur le plus aimable. Naissance, famille, beauté, talent, il avait tout pour plaire. La veille, j'avais vu dans les mains d'une dame, sur une boîte d'écaille, le portrait peint à la miniature du chevalier de Saint-Ange en costume de dragon. En le voyant, j'avais envié, comme tous les hommes, sa mâle éloquence et sa grâce souveraine. Tous les matins, j'entendais ma voisine, la mercière, chanter sur le seuil de sa porte d'immortelles romances, le gage. Ô toi qui n'eus jamais dû mettre gage trop cher d'un fol amour, puisses-tu ne jamais connaître l'erreur qui te donna le jour? Naguère encore, je lisais avec délice le roman philosophique qui ouvrit au chevalier de Saint-Ange les portes de l'Académie française. Cet admirable cynégire qui laisse bien loin derrière lui le Numa Pompilius de M. de Florian. « Votre cynégire, disait le vénérable M. Sedaine au chevalier de Saint-Ange en le recevant dans l'illustre compagnie, votre cynégire a été dédié par vous aux mânes de Fénelon, et l'offrande n'a pas déparé l'autel. Tel était mon rival, l'auteur sensible du gage, l'émule de Fénelon et de Voltaire. Je restais confus. L'étonnement engourdissait ma douleur. « Quoi, madame ? » m'écriai-je, « le chevalier de Saint-Ange ?»« Oui, » reprit madame Berthemet en secouant la tête, « un beau talent. Mais n'imaginez pas qu'il soit l'homme de ces poèmes héroïques. Non, hélas, son amour décline avec notre fortune. » Elle ajouta avec bonté qu'elle regrettait que le choix de sa fille ne se fût pas porté sur moi. Les talents, disait-elle, ne font pas le bonheur. Au contraire, les hommes doués de facultés extraordinaires, les poètes, les orateurs, devraient vivre seuls. Qu'ont-ils besoin de compagnie en cette vie où ils ne peuvent rencontrer d'égaux? Leur génie même les condamne à l'égoïsme. On n'est pas impunément un homme supérieur. Mais je ne l'écoutais plus, je demeurais étonné. Cette révélation avait tué mon amour, je n'avais rien espéré. Jamais. Sans espoir, l'amour n'est guère vivace, et le mien était mort d'un seul mot. Le chevalier de Saint-Ange, l'avouerai-je? Tandis que mon cœur saignait, j'éprouvais une sorte de satisfaction d'amour-propre à songer que tout autre aurait été repoussé comme moi, prévenu par un tel rival. Je baisai 100 fois les mains de madame Berthemet et je sortis de chez elle, tranquille, muet, lent, comme l'ombre de ce généreux amant qui était venu une heure auparavant porter à la mère d'Amélie ses scrupules et ses aveux. J'étais désespéré. Oh, je ne souffrais pas. J'éprouvais seulement de la surprise, de la honte et de la crainte en me sentant survivre au meilleur de moi-même, à mon amour. Comme je traversais le Pont-Neuf pour entrer dans mon vieux faubourg désert, je vis sur le terre-plein, au pied du socle, sur lequel s'élevait naguère la statue de Henri IV, un chanteur de l'Académie de musique qui disait l'hymne des Marseillais d'une voix pathétique. La foule assemblée, tête nue, reprenait le refrain en chœur. « Aux armes, citoyens !» Mais quand le chanteur entonna le premier et dernier couplet, amour sacré de la patrie, d'une voix lente et profonde, tout le peuple frémit dans une sainte ivresse. À ces vers, liberté, liberté chérie, je tombai à genoux sur le pavé, et je vis que tout le peuple s'était prosterné avec moi. Ô patrie, patrie, qu'y a-t-il en toi pour que tes enfants t'adorent ainsi ? Au-dessus de la boue et du sang s'élève ton image radieuse, ô patrie. Heureux ceux qui meurent pour toi. Le soleil qui descendait alors à l'horizon dans les nuées ensanglantées répandait des flammes liquides sur les eaux du plus illustre des fleuves. Salut, dernier rayon de mes beaux jours. Oh, dans quel sombre hiver j'entrais ce soir-là. Quand je m'enfermais dans ma petite chambre sous les combles de l'hôtel de Puybonne, je crus poser sur moi la pierre de mon tombeau. « C'est fait, me dis-je en sanglotant, je n'aime plus Amélie. Mais d'où vient que je suis obligé de me le redire sans cesse? D'où vient que, ne l'aimant plus, je ne puis songer qu'à elle? Pourquoi pleurais-je avec tant d'amertume mon pauvre amour déraciné? » De cruelles angoisses vinrent se joindre aux tristesses de mon cœur. L'état des affaires publiques me désespérait. Ma détresse était extrême et, loin d'espérer obtenir du travail, j'étais réduit à me cacher pour n'être point arrêté comme suspect. Monsieur Mille n'avait pas reparu à l'hôtel depuis le 10 août. Je ne sais trop où il logeait, mais il ne manquait pas une seule séance de la commune et il récitait tous les jours devant la municipalité, aux grands applaudissements des tricoteuses et des sans-culottes, un hymne nouveau. Oh, il était le plus patriote des poètes, et le citoyen Dora Cubière lui-même semblait auprès de lui un timide feuillant suspect aux démagogues. J'étais d'un commerce dangereux, aussi M. Mille ne venait pas me visiter, et la délicatesse me faisait un facile devoir de ne point le rechercher. Pourtant, comme il était honnête homme, il m'envoya le recueil imprimé de ses chansons. Oh, que sa seconde muse ressemblait peu à la première. Celle-ci était poudrée, fardée, musquée. L'autre avait l'air d'une furie à chevelure de serpent. Je me rappelle encore la chanson des sans-culottes qui voulait être bien méchante. Elle commençait ainsi. Amis, assez trop longtemps, sous le règne affreux des tyrans, on chanta les despotes. Sous celui de l'égalité, des lois et de la liberté, chantons les sans-culottes. Le procès du roi me jeta dans un trouble indicible. Mes jours s'écoulaient avec horreur. Un matin, on vint frapper à ma porte. Je devinai une main douce et amie. J'ouvris. Madame Berthelet se jeta dans mes bras. « Oh, sauvez-moi, sauvez-nous, me dit-elle. Mon frère Eustance, mon frère unique, porté sur une liste d'émigrés, est venu chercher un asile chez moi. Il a été dénoncé, arrêté. Il est en prison depuis 5 jours. Heureusement, l'accusation qui pèse sur lui est vague et mal fondée. Mon frère n'a jamais émigré. Il suffit pour qu'il soit relâché, qu'on vienne témoigner de sa résidence. Je demandais ce service au chevalier de Saint-Ange. Il me l'a refusé prudemment. Eh bien, mon ami, mon fils, ce service, périlleux pour lui et plus périlleux encore pour vous, je viens vous le demander. » Je la remerciai de cette demande comme d'une faveur. C'en était une, en effet, et la plus précieuse dont un honnête homme put être honoré. « Je savais bien que vous ne me refuseriez pas, vous !» s'écria Madame Berthelet en m'embrassant. « Mais ce n'est pas tout, ajouta-t-elle. Il faut que vous trouviez un second témoin. Il est nécessaire qu'il s'en présente deux pour que mon frère soit relâché. Mon ami, en quel temps vivons-nous? Monsieur de Saint-Ange s'éloigne de nous. Notre malheur l'importune et Monsieur Mille craindrait de fréquenter des suspects. Qui lui dit, mon ami, mais qui lui dit? Vous souvient-il du jour de la Fédération? Nous étions tous animés de sentiments fraternels J'avais une bien belle robe. Elle me quitta en pleurant. Je descendis l'escalier sur ses pas pour quérir un témoin, et j'étais, à vrai dire, fort embarrassé d'en trouver un. En me prenant le menton dans les mains, je m'avisai que j'avais une barbe de 8 jours qui pourrait me rendre suspect, et je me rendis tout de suite chez mon barbier au coin de la rue Saint-Guillaume. Ce barbier était un très bon homme nommé Laris, long comme un peuplier et agité comme un tremble. Quand j'entrai dans son échoppe, il accommodait un marchand de vin du quartier qui, de sa bouche barbouillée de savon, vomissait toutes sortes de gentillesses. « Joli merlan des dames, disait-il, on te coupera la tête et on la mettra au bout d'une pique pour satisfaire les aspirations aristocratiques. Il faut que tous les ennemis du peuple crachent dans le panier, depuis le gros capet jusqu'au mince Laris, et ça ira !» Monsieur Laris, plus pâle que la lune et plus tremblant que la feuille, rasait avec d'infinies précautions le menton du patriote injurieux. Je constatais que jamais perruquier n'avait éprouvé plus d'effroi. Et j'en arguais bien pour le succès du dessein que j'avais soudainement formé. Mon intention, en effet, était de prier M. Laris de venir témoigner avec moi au comité. « Oh, il est si poltron, me disais-je, qu'il n'osera pas me refuser. » Le marchand de vin se retira rue Roblan de nouvelles menaces et me laissa seul avec le perruquier qui, tout frémissant encore, me passa une serviette au cou. « Ah, monsieur, me dit-il à l'oreille, d'une voix plus faible qu'un soupir, l'enfer est déchaîné sur nous. N'ai-je donc étudié l'art de la coiffure que pour accommoder des démons? Les têtes qui me faisaient honneur sont maintenant à Londres ou à Koblenz. Mais comment se porte monseigneur le duc de Puybonne? Oh, c'était un bon maître. » Je l'assurai que le duc vivait à Londres en donnant des leçons d'écriture. En effet, le duc m'avait fait tenir récemment un papier où il me demandait qu'il vivait parfaitement heureux à Londres avec 4 shillings, 6 pence par jour. « Il se peut, » répondit M. Laris, « mais on n'est pas coiffé à Londres comme à Paris. Les Anglais savent faire des constitutions, mais ils ne savent pas faire de perruques, et leur poudre n'est pas d'un blanc assez pur. » M. Laris m'eut vite rasé. Je n'avais pas alors la barbe bien rude. À peine avait-il terminé son rasoir, que, lui saisissant le poignet, je lui dis résolument, « Mon cher monsieur Laris, vous êtes un galant homme. Vous allez m'accompagner à l'Assemblée générale de la section des postes en la ci-devant église Saint-Eustache. Vous y attesterez avec moi que monsieur Eustance n'a jamais émigré. » À ces mots, M. Laris pâlit et murmura d'une voix mourante, « Mais je ne connais pas, monsieur Eustance. » « Moi non plus, lui répondis-je, ce qui était la pure vérité. J'avais bien auguré du caractère de M. Laris. Il était anéanti. La peur même le jetait dans le péril. Je le pris par le bras. Il me suivit sans résistance. « Mais vous me menez à la mort, » me dit-il doucement. « À la gloire !» lui répondis-je. Je ne sais s'il connaissait ces tragiques, mais il était sensible à l'honneur. Il parut flatté. Il avait quelque littérature, car, me quittant le bras pour se rendre dans son arrière-boutique, « Cher monsieur, me dit-il, laissez-moi mettre du moins mon bel habit. Dans l'Antiquité, les victimes était paré de fleurs, je l'ai lu dans l'almanach des honnêtes gens. » Il tira de sa commode un habit bleu qu'il passa autour de sa longue et flexible personne. Et c'est dans cet équipage qu'il qui m'accompagna à l'assemblée générale de la section des postes qui était en permanence. Au seuil de l'église désaffectée, sur la porte de laquelle on lisait les mots « liberté, égalité, fraternité ou la mort », M. Larisse sentit une sueur lui monter au front. Il entra pourtant. Un des citoyens qui dormait là au milieu de bouteilles vides se réveilla à demi pour examiner notre affaire, puis il nous renvoya au comité révolutionnaire de la section. Je connaissais ce comité pour y avoir accompagné deux fois M. Berthemet. Le président était un petit logeur de la rue de la Truanderie, dont les plus fidèles pratiques étaient des demoiselles du monde. Parmi les membres figuraient un rémouleur à brouette, un portier et un dégraisseur nommé Bistac. C'est au rémouleur que nous eûmes affaire. Il siégeait sans façon, les manches retroussées. Il se montra un bon homme. « Citoyen, nous dit-il, oh, du moment que vous apportez une attestation en forme, je n'ai rien à objecter parce que je suis magistrat et que par conséquent, la forme me suffit. J'ajouterai qu'un mot. Un homme qui a de l'intelligence et de l'esprit ne doit pas être autorisé à quitter Paris en ce moment. Parce que, voyez-vous, citoyen, il hésita. » Puis, cédant du geste pour exprimer sa pensée, il étendit son bras nu et musclé, puis le porta à son front qu'il frappa du doigt en disant « Il faut pas seulement de ça !» Ce qu'il entendait de son bras, instrument de travail, « Il faut aussi de ça !» Ce qu'il entendait de son front, siège de l'intelligence. Il nous vanta ensuite son génie naturel et se plaignit que ses parents ne lui eussent pas donné d'instruction. Puis il se mit en devoir de signer notre déclaration. En dépit de sa bonne volonté, ce fut long. Pendant que ses mains, habituées à la meule, maniaient péniblement la plume, le dégraisseur Bissac entra dans la salle. Bissac n'avait pas la bonne humeur du gagne-petit. Il avait l'âme jacobine. À notre vue, son front se plissa, ses narines se gonflèrent, il flairait des aristocrates. « Qui es-tu ? » me demanda-t-il. « Pierre Aubier. » « Eh bien, Pierre Aubier, t'es-tu flatté de coucher cette nuit dans ton lit ?» Je fis assez bonne contenance, mais mon compagnon se mit à frissonner de tous ses membres. Ses os claquaient si fort que Bistac y prit garde et n'oublia pour ne plus s'occuper que du pauvre Larisse. « Ah, tu m'as tout l'air d'un conspirateur !» dit Bilzac d'une voix terrible. « Quelle est ta profession ?»« Barbier, pour vous servir, citoyen. »« Mais tous les barbiers sont des feuillants !» La peur faisait faire communément à M. Larisse les actions les plus courageuses. Il m'a confessé depuis qu'à ce moment, il avait eu toutes les peines du monde à se défendre de crier « Vive le roi !» Dans le fait, il ne cria point, mais il répondit fièrement qu'il ne devait pas tant de grâce à la Révolution qui avait supprimé les perruques et la poudre et qu'il était là de trembler sans cesse. « Prenez ma tête, ajouta-t-il, je vais mieux mourir une fois que de craindre toujours. » Ce discours rendit Bistac perplexe. Cependant, le rémouleur qui roulait dans sa cervelle des pensées confuses mais bienveillantes nous invita à nous retirer. « Allez, citoyens, nous dit-il, mais rappelez-vous que la République a besoin de ça !» Et il montrait son front. Le frère de Madame Berthemet fut relâché le lendemain. La mère d'Amélie m'en témoigna beaucoup de reconnaissance et m'embrassa car elle était embrassante. Elle fit mieux. « Vous avez, me dit-elle, acquis des droits à la reconnaissance d'Amélie. Je veux que ma fille vienne elle-même vous témoigner toute sa gratitude. Elle vous doit un oncle. C'est moins qu'une mère, il est vrai, mais quelle louange ne mérite pas votre courage. » Elle alla chercher Amélie. Restée seule dans le salon, j'attendis. Je me demandais si j'aurais la force de la revoir. Je craignais, j'espérais, je souffrais mille morts. Et au bout de 5 minutes, Madame Berthemer reparut seule. « Oh, excusez une ingrate, me dit-elle. Ma fille refuse de venir. Je ne saurais souffrir sa présence, m'a-t-elle dit. Sa vue me serait cruelle. Désormais, il m'est odieux. En montrant plus de courage que l'homme que j'aime, il s'est acquis un cruel avantage. Je le reverrai de ma vie. Il est généreux, il me pardonnera. » Après m'avoir rapporté ces paroles, Madame Berthemet conclut par ces mots : « Oubliez une ingrate. » Je promis de m'y efforcer et je tins parole. Les événements m'y aidèrent. La terreur régnait. L'affreuse journée du 31 mai avait ôté aux modérés leurs dernières espérances. Dénoncé plusieurs fois comme conspirateur à cause de la correspondance que j'entretenais avec M. de Puybonne, j'étais sans cesse menacé de perdre la liberté et la vie. N'ayant plus de carte de civisme, n'osant demander de peur d'être mis aussitôt en état d'arrestation, l'existence n'était plus supportable pour moi. On faisait alors la réquisition de 1 200 000 hommes depuis l'âge de 18 ans jusqu'à 25. Je me fis inscrire. Le 7 Brumaire en 2 à 6 heures du matin, je pris la route de Nancy pour rejoindre mon régiment. Le bonnet de police sur la tête, sac au dos, vêtu d'une carmagnole, je me trouvais un air assez martial. De temps en temps, je me retournais vers la grande ville où j'avais tant souffert et tant aimé. Puis je reprenais mon chemin en essuyant une larme. Je m'avisais de chanter pour me donner du cœur et j'entonnais l'hymne des Marseillais. Allons, enfants de la patrie! À la première étape, je présentais ma feuille de route à des paysans qui m'envoyèrent coucher à l'étable dans la paille. J'y dormis d'un sommeil délicieux et je songeais en me réveillant. Ben voilà qui est bien. Je ne risque plus d'être guillotiné. Il me semble que je n'aime plus Amélie, ou plutôt, il me semble que je ne l'ai jamais aimée. Je vais avoir un sabre et un fusil. Je n'aurai plus à craindre que les balles des Autrichiens. Brin d'amour et trompe la mort ont raison. Il n'est pas de plus beau métier que celui de soldat. Mais qui l'eût dit quand j'étudiais le latin sous les pommiers en fleurs de M. l'abbé Lamadou, qu'un jour je défendrai la République? Ah, M. Féval, qui l'eût dit que le petit Pierre, votre élève, s'en irait en guerre? À l'étape suivante, une bonne femme me coucha dans des draps blancs parce que je ressemblais à son fils. Je logeais le lendemain chez une chanoinesse qui me mit dans un grenier à la pluie et au vent. Encore le fit-elle d'une âme bien angoissée, tant un défenseur de la République lui semblait une dangereuse espèce de brigand. Enfin, je rejoignis mon corps sur le bord de la Meuse. On me donna une épée. J'en rougis le plaisir et me crus plus grand d'un pied. Oh, ne m'enraillez pas. C'est ça de la vanité, j'en conviens, mais c'est celle qui fait les héros. À peine équipés, nous reçûmes l'ordre de partir pour Maubeuge. Nous arrivâmes sur la Sambre par une nuit noire. Tout se taisait. Nous vîmes des feux allumés sur les collines de l'autre côté de la rivière. J'appris que c'étaient les bivouacs de l'ennemi. Et mon cœur battit à se rompre. C'est d'après Tite Live que je m'étais fait une image de la guerre. Or, je vous atteste, bois, prés, collines, rive de la Sambre et de la Meuse, cette image était fausse. La guerre, telle que je la fis, consiste à traverser des villages incendiés, à coucher dans la boue, à entendre siffler des balles pendant des longues et mélancoliques factions de la nuit, mais de combats singuliers, de batailles rangées, je n'en vis point. Nous dormions peu et nous ne mangions pas. Floridor, mon sergent ancien garde française, jurait que nous menions une vie de fête. Oh, il exagérait, mais nous n'étions pas malheureux, car nous avions la conscience de faire notre devoir et d'être utiles à la patrie. Nous étions justement fiers de notre régiment qui s'était couvert de gloire à Vatigny. Il était composé en grande partie de soldats de l'ancien régime, solides et bien instruits. Comme il avait perdu beaucoup de monde dans plusieurs affaires, on avait bouché les trous tant bien que mal avec de jeunes réquisitionnaires. Sans les vétérans qui nous encadraient, nous n'eussions rien valu. Il faut beaucoup de temps pour former un soldat, et l'enthousiasme à la guerre ne remplace pas l'expérience. Mon colonel était un ci-devant noble de chez moi. Il me traita avec bonté. Vieux royaliste de province, soldat et non courtisan, il avait fort tardé à changer l'habit blanc des troupes de Sa Majesté contre l'habit bleu des soldats de l'an II. Il détestait la République et donnait tous les jours sa vie pour elle. Je bénis la Providence de m'avoir conduit à la frontière, puisque j'y ai trouvé la vertu écrite au bivouac sur la Sambre du septidi 27 frimaire au sextidi 6 nivose en deux de la République française par Pierre Aubier, réquisitionnaire.